Second épître de Paul à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 16. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 16e. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 16. Paul écrit à Timothée, vite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà, pour comprendre cet extrait de la Bible, il faut savoir que la seconde épître que Paul écrit à Timothée est ce qu'on appelle une épître pastorale, c'est-à-dire que Paul écrit ici à Timothée qui est lui-même pasteur, il a pris en charge notamment l'église d'Éphèse, et Paul va donner à Timothée des recommandations sur la manière dont Timothée doit s'appliquer à travailler au milieu de l'église et pour l'église. C'est aussi un écrit très personnel de Paul que cette seconde épître à Timothée. Paul s'adresse à Timothée qu'il regarde comme son enfant spirituel, son enfant dans la foi, et cet écrit est d'autant plus personnel qu'il l'a écrit alors qu'il voit sa fin approcher. Vous savez sans doute que la deuxième épître à Timothée a été écrite lors de la grande persécution des chrétiens sous le règne de l'empereur Néron. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire, vous savez que cet empereur sanguinaire a mis le feu à la ville de Rome dans l'an 64 et a fait ensuite accuser les chrétiens, attisant contre eux une grande persécution. Paul était donc emprisonné et pendant un moment, il semblerait que la défense de Paul ait été efficace. Ça lui a même donné, cet emprisonnement, l'occasion de prêcher l'évangile, puisqu'il dit que le Seigneur l'a fortifié et a permis que la prédication soit accomplie par lui et trouve du succès auprès des païens. Mais Paul ne s'y trompe pas. Lorsqu'il écrit cette seconde épître à Timothée, il sait que sa condamnation va être prononcée, il sait que son emprisonnement ne sera pas cette fois pour une libération prochaine, mais qu'il trouvera la mort et sera exécuté. C'est donc une période difficile que celle dans laquelle Paul écrit cette épître, non seulement pour les chrétiens, non seulement pour l'Église, à Rome notamment, mais aussi pour l'apôtre. Et Paul écrit à Timothée pour le fortifier, pour l'encourager. Ce jeune homme va rester seul, en quelque sorte, privé de son père spirituel. Et Paul lui écrit pour lui dire « Moi je m'en vais, en quelque sorte, mais Dieu lui reste ». Et il est des occasions où Dieu permet que nous perdions nos appuis humains. Et il importe dans ces moments d'être conscient et de nous appuyer sur cette réalité que Dieu demeure le même. Il est Dieu et il ne change pas. Et puis Paul, parce que c'est le père spirituel de Timothée, va aussi encourager Timothée à lui demeurer fidèle. Particulièrement en ces temps difficiles, nous avons vu que il y avait toutes sortes de difficultés qui venaient de l'extérieur, puisque Néron, la persécution, les adversaires de l'Évangile agissaient contre l'Église. Et puis, c'était peut-être plus difficile encore pour Paul, mais des difficultés se manifestent même de l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de l'Église visible. Il y avait Paul et des hommes remarquables, des apôtres. Et puis on s'aperçoit, quand on a lu ce verset, là, qu'il y avait aussi des faux docteurs qui renversaient la foi de quelques-uns au milieu de l'Église. Des hommes fidèles comme Paul, Jacques, Pierre, Jean, qui restera fidèle jusqu'au bout, jusqu'à Patmos, mais aussi des hommes, mais parfois pas des moindres, qui abandonne la course, Démas, dans cette seconde épître de Paul à Timothée, est décrit comme un homme qui a abandonné la course. Puis il y avait des hommes de Dieu, comme Paul, Timothée, Tite, puis aussi des hommes méchants, imposteurs. Alors, ça amène Paul à dire cela, que l'Église visible est comme une grande maison. Vous savez que dans la Bible, l'Église est souvent comparée à la maison de Dieu. L'image de la grande maison est un peu différente. Ce n'est pas la maison, le temple. La grande maison, c'est l'ensemble de ceux qui professent connaître Dieu. Or, vous savez que tous ceux qui professent connaître Dieu ne sont pas tous ceux qui entreront au ciel, que Dieu reconnaît comme les siens. Ainsi, Paul dit, dans une grande maison, il y a toutes sortes de vases. Il y a des vases d'un usage précieux, des vases d'or, des vases d'argent. Puis il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns, d'un métal précieux, sont des vases précieux aux yeux de Dieu. Puis les autres sont un usage vil. Et il dit à Timothée, « Toi, ce qui importe, c'est que tu sois un vase précieux. Que tu sois un vase d'honneur, utile à ton maître et propre à toute bonne œuvre. » Nous pourrions relever ce matin quelques caractéristiques, assez brièvement, d'un vase d'honneur, pour appliquer notre cœur, nous aussi, dans notre génération, dans des temps qui, de manière différente sans doute, ne sont pas non plus faciles. Être un vase d'honneur, qu'est-ce que ça implique? Bien, relevons dans un premier temps que le vase d'honneur, c'est celui qui demeure fondé en Jésus-Christ. Dans le chapitre 2 de cet épître à Timothée, Paul dira « Souviens-toi de Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous. Souviens-toi de Jésus-Christ, né de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » Voilà, être un vase d'honneur, c'est tout d'abord ne jamais oublier que notre vie chrétienne, la raison de notre espérance, de notre marche et de notre espérance éternelle, eh bien, c'est la personne même et l'œuvre bénie du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre espérance, nous n'avons pas d'autre fondement pour notre foi que Jésus-Christ, mort pour nos péchés, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il s'est livré lui-même pour nous. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Bien plus, il est ressuscité des morts, il intercède pour nous. Il a ouvert pour quiconque reconnaît son péché, sa souillure, son besoin de purification, quiconque se repent de ses péchés et les délaisse, il a ouvert une espérance éternelle. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et si quelqu'un ce matin n'avait pas fait la paix avec Dieu, nous lui disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers le Seigneur, invoquez son nom et son nom seul. Le fondement sûr et solide de l'Évangile, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est mort pour sauver les pécheurs que nous sommes. Puis, une deuxième caractéristique d'un vase d'honneur dans cette deuxième épître à Timothée, c'est qu'il supporte les souffrances. J'aimerais vous inviter à lire un peu plus loin dans cette épître à Timothée, au chapitre 4, et à partir du verset 5e. Chapitre 4, verset 5. Paul écrit à Timothée ici, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Voilà, être un vase d'honneur, servir Dieu, c'est certes, mettre nos forces, notre vie à sa disposition, son service, essayer de nous conformer dans nos actes à ce que Dieu nous laisse, à ce qui est écrit dans sa parole. C'est nous engager dans certaines actions qui sont utiles à Dieu. Parfois, c'est aussi supporter. Supporter certaines souffrances, elles sont inséparables de la confession de notre foi. Or, dans la seconde épître à Timothée, nous nous apercevons que certains de ceux qui avaient été proches même de l'apôtre Paul n'avaient pas supporté ces souffrances. En Asie, Paul dira, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. C'est-à-dire que des gens qui avaient engagé leur vie, qui suivaient le Christ, qui suivaient l'apôtre, bien, ont été exposés à des souffrances, ont été exposés à des difficultés. Et lorsque Paul a été emprisonné, lorsque Paul a été mis dans les chaînes, plutôt que de choisir de lui être en aide, de lui venir en aide, n'est-ce pas, ces gens se sont éloignés. Ces gens se sont éloignés. Que Dieu nous trouve fidèles, prêts à accepter certaines souffrances qui sont indispensables et qui, inévitablement, se manifesteront d'une manière ou d'une autre. C'est indispensable pour être un vase d'honneur. Paul parle ici de vase d'or et d'argent. Or, vous en souviendrez sans doute, les lecteurs assidus de la Bible savent que Pierre parle de notre foi comme comparable à l'or périssable. Et Pierre nous dit, bien qu'éprouvé par le feu, il faut qu'il le soit. Bien, votre foi doit, à cause de la souffrance, être éprouvée, mais afin qu'elle ait pour résultat l'honneur, la gloire et la louange au jour où Jésus-Christ paraîtra. Donc, être un vase d'honneur, supporter les souffrances. Et puis, être un vase d'honneur, c'est aussi être prêt à recevoir tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu, bien sûr, qui est manifesté, qui est explicité dans sa parole. Dieu a consigné dans sa parole inspirée, toute l'écriture est inspirée de Dieu, bien tout ce que nous devons recevoir pour nourrir notre foi et savoir comment il convient de nous diriger, quelles décisions il nous convient de prendre, comment il nous convient de concevoir la vie, les choses éternelles, l'Église. Tenez, lisons dans le chapitre 4, toujours au verset 3, ce qui est écrit, 2e épître à Timothée, chapitre 4, verset 3, verset 2 même. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Voilà, ce qui est frappant dans les épîtres de Paul, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est que très souvent, Paul instruit, exhorte en fournissant non seulement de bons exemples, mais aussi de mauvais. Et il dit ici, voilà, il y a un danger dans les derniers temps. Et ça va se passer, ça, dans la grande maison qu'est l'Église visible. Ça va se passer, ça, même dans des milieux religieux. Des gens viendront à vous avec des enseignements qui sont tout à fait étrangers à ce que la Bible enseigne. Et ils essayeront de faire accepter cela, de se présenter comme venant au nom de Jésus-Christ lui-même. Et Paul dit à Timothée, ne marche pas dans ces histoires. Garde-toi de ces choses. Mais prêche la parole telle que tu l'as entendue au commencement. Demeure établi sur le fondement. Enseigne la saine parole telle qu'elle a été enseignée. Et ainsi, eh bien, tu seras gardé toi-même et tu garderas ceux qui t'écoutent. Un petit peu avant, je vous propose que nous lisions ces versets que nous connaissons dans le chapitre précédent, le chapitre 3 et au verset 15e. Paul écrit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'enseignement de l'écriture, il nous instruit. Nous sommes ignorants sur tant de choses, nous avons tant besoin que Dieu nous enseigne. Pour convaincre, pour que nous agissions non pas comme accomplissant les volontés d'un mouvement religieux, vous savez que ça existe, ça, même dans les sectes, hein. Ce n'est pas du tout ce que Dieu désire pour son Église, mais la parole de Dieu crée en nous de fermes convictions qui nous poussent à agir parce que nous sommes convaincus que c'est bon, c'est ce qui correspond à ce que Dieu approuve, ce qui est honorable, ce qui est juste. Pour corriger, parfois nous nous écartons, bien comme on corrige la trajectoire d'un objet qui s'éloigne du but, Dieu, par sa parole, agit dans notre cœur, dans notre conscience, pour rectifier notre vie, nous remettre sur les rails, nous replacer sur la bonne direction, pour instruire dans la justice, pour que nous soyons finalement des vases d'honneur dans sa maison. Vase d'honneur, c'est aussi celui qui vit dans la sainteté. Lisons au chapitre 2 ce texte à partir du verset 22. Même si nous l'avons lu, nous rappelons ce solide fondement. Deuxième épître à Timothée toujours, verset 22, où Paul écrit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles, or il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. » Voilà, c'est finalement la conséquence logique, n'est-ce pas, du fait de recevoir la parole. Elle corrige, elle instruit, elle conduit dans la justice, elle produit en nous une œuvre. Vous voyez, la parole de Dieu est vivante, elle ne reste pas sans produire un effet. Lorsque nous la lisons, lorsque nous la laissons produire en nous ses fruits, elle réforme, elle convainc, elle nous amène à penser différemment de ce que nous penserions si nous n'étions pas soumis à son influence bénéfique et bénie. Elle va nous conduire dans la pratique de la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Mais ça consiste à rejeter le mal. Ça consiste à prendre conscience de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, et de rejeter le mal, de le confesser à Dieu, de l'abandonner, de nous en détourner, voilà, d'aimer la justice et d'haïr ce qui appartient au monde des ténèbres, ce qui appartient au monde de l'injustice, ce qui appartient au monde de l'impureté, n'est-ce pas, vomir, rejeter ces choses, en obtenir, si nous en étions coupables ce matin, la purification par le sang précieux de Jésus. Et poursuivre ce qui est bon. La sainteté n'est pas quelque chose de négatif, elle n'est pas quelque chose de pénible, mais c'est le fruit de l'œuvre de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de Dieu lui-même dans notre cœur. D'enfants de colère, d'ennemis de Dieu que nous étions, il œuvre en nous, il nous transforme, pour faire de nous des gens de sa maison. Et puis, on peut ajouter que le vase d'honneur est aussi l'homme, la femme, le chrétien, qui demeure dans le modèle reçu de ceux qui l'ont précédé. Et ça, c'est quelque chose d'important, de précieux. Bien sûr, on le comprend. Paul, si proche de la mort, sait qu'il va laisser Timothée face à l'opposition, à des difficultés, à des joies aussi, des bénédictions dans son service. Et à plusieurs reprises, il encourage Timothée à demeurer fermement établi et à continuer à agir comme il a vu l'apôtre lui-même agir, comme il l'a vu se comporter. C'est important, ça. Tenez, il va commencer par lui dire, mais garde le souvenir de la foi sincère qui habite en toi et qui a d'abord habité dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Vous voyez, Timothée avait été élevé par une mère qui avait placé sa foi dans le Seigneur. Sa grand-mère aussi avait contribué à l'instruire dans les choses de Dieu. Et Paul dit, n'oublie pas ce que tu as reçu. N'oublie pas ce qu'elles t'ont transmis. Puis il dira aussi, retiens dans la foi et dans l'amour le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Tenez, je cite encore un peu plus loin dans la lettre. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, etc. Et quand il lui dit, souffre avec moi. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose. Paul ne dit pas à Timothée, tu vas souffrir. Il dit, regarde, moi aussi, j'ai passé par ce même chemin. Il faut, Timothée, que tu t'armes des mêmes dispositions, que tu laisses Dieu te fortifier de la même manière. Finalement, être un vase d'honneur, c'est parfois savoir se préserver de certaines nouveautés. Vous savez que le diable nous séduit, tente souvent de séduire l'Église en utilisant ce qui est nouveau, ce qui brille. Paul écrira même aux Corinthiens qu'il se déguise en ange de lumière. Mais nous préserver des ruses du diable, c'est aussi savoir nous préserver et garder confiance, demeurer fermement établi dans ce qui est dès le commencement. Ne pas nous détourner de ce que nous avons reçu, de la saine parole telle qu'elle est enseignée, pour nous tourner vers d'autres voies sous prétexte qu'elles nous paraissent meilleures. Que sous un jour de nouveauté, n'est-ce pas, n'acceptons pas un évangile, un enseignement, des pratiques, une foi qui ne serait pas celle de l'Écriture. se souvient de l'attitude de ces chrétiens, enfin ils allaient le devenir, de ces personnes, ces auditeurs de Paul dans la ville de Bérée, auprès desquels Paul avait enseigné, il avait travaillé, il avait prêché l'évangile. Et il nous a dit que ces auditeurs reconnaissaient en lui un homme éloquent, un prédicateur, mais vous voyez, ils n'acceptaient pas tout ce qu'il leur disait pour argent comptant. Les Béréens examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était exact. Et ayant trouvé que dans sa prédication, annonçant Christ, Paul n'enseignait rien de contraire à rien de ce qui était écrit, les Béréens ont été convaincus et ils ont reçu la parole de Paul ainsi qu'elle l'était véritablement, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Soyons aussi des Béréens. Sondons les choses par les Écritures. Comparons toujours ce que nous voyons et entendons au modèle béni de l'Écriture inspirée. Et nous serons en sécurité, nous demeurerons nous-mêmes des vases d'honneur. Et puis on termine par cette pensée, le vase d'honneur est aussi celui que Dieu remplit de son bon esprit. Un vase, c'est un contenant, il est destiné à être rempli. Un vase d'honneur, il est destiné à être utile. Oui, bénissons Dieu pour le don de son esprit, pour la conduite de son esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, tant il est vrai que lorsque Dieu nous régénère, lorsqu'il nous adopte, lorsqu'il fait de nous ses fils et ses filles, eh bien il met en nous son bon esprit, nous sommes conduits par l'esprit de Christ, c'est écrit, hein, d'une influence bénie, d'une influence parfois discrète, car le Saint-Esprit nous respecte, il parle simplement à notre conscience, il grave en nous le témoignage que l'Écriture effectivement est bonne, et lorsque nous nous engageons parfois dans une voie douteuse, eh bien, il fait entendre sa voix à notre conscience. C'est la conduite de l'esprit. Lorsque nous sommes face à une situation où nous savons que notre devoir de chrétien, c'est d'agir de telle ou telle manière et que nous sentons qu'en nous, il y a de mauvaises dispositions, eh bien, le Saint-Esprit nous permet d'en triompher et de choisir la bonne attitude. Ça, c'est la conduite de l'esprit. Puis il y a aussi, et on termine par là, le fait d'être revêtu par sa puissance. Un vase, eh bien c'est celui que Dieu veut remplir d'huile. Il y a plusieurs exemples dans l'Écriture où Dieu nous parle de ces vases qu'il remplit. Alors, on pense bien sûr à ce qui s'est passé au temps d'Élysée, par exemple. Hein? Dieu se sert de vases vides. Et lorsque nous faisons l'expérience de notre propre vide, notre propre insuffisance, et c'est là que nous permettons à Dieu de nous donner sa force. Nous n'avons pas confiance en notre cœur, nous n'avons pas confiance en nos capacités, nous avons été appelés le premier jour tels que nous étions, et Dieu nous a purifiés, nous a lavés, nous a relevés, béni soit son nom. Bien dans la suite des temps, nous n'avons pas plus confiance en notre propre cœur, nous avons besoin, après 20 ans, 30 ans de conversion, que Dieu nous remplisse, qu'il nous donne sa capacité. Des vases d'honneur dans sa maison, une grande maison au milieu d'un monde qui est souvent rempli de toutes sortes de violences, de dissensions, en tout cas d'opposition contre l'Église de Christ. Une Église qui elle-même, parfois, dans le monde, rencontre des difficultés, des oppositions au sein de laquelle peuvent se manifester des difficultés. Mais nous avons reçu, chacun pour notre part, dans cette Église, dans ce monde, la vocation d'être des vases d'honneur. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous y aide. Je propose qu'on se recueille et que, ensemble, nous invoquions le Seigneur.